Radio Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition, votre grand rendez-vous de l'information à la une ce soir. Les faits marquants de la journée, les enjeux décryptés, une information crédible, vérifiée et au cœur de l'actualité. Voici le grand titre. Swan Tshisekedi, premier échange officiel à Kinshasa. Le chef de l'État et le nouveau représentant spécial de l'ONU ont passé en revue le déploiement du nouveau mandat de la MONUSCO, ses priorités sécuritaires et les attentes des autorités congolaises. Le Sud Kivu, le choléra gagne du terrain. 5 zones de santé d'Uvira et de Fizi déjà touchées, déplacées et militaires parmi les plus affectés. Les autorités sanitaires appellent à une riposte vaccinale urgente. INOPS cap sur l'action en RDC. En fin de journal, entretien exclusif avec Sanjay Matour, directeur régional de l'INOPS pour l'Afrique, en visite en RDC pour faire le point sur le projet et les priorités de l'organisation. À peine installé, déjà reçu au sommet de l'État, une semaine seulement après sa prise de fonction, James Swan s'impose déjà au cœur du jeu diplomatique. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et patron de la MONUSCO a été reçu ce mardi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon la présidence, les échanges ont porté sur la mise en œuvre du nouveau mandat de la MONUSCO tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les résolutions 2808 et 2773. Priorité sécuritaire attente de Kinshasa et feuille de route onusienne, le point avec Grace Amzati.
Ces deux résolutions chargent la MONUSCO d'apporter un appui opérationnel aux mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu conclu à Washington et à Doha. Objectif, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et démanteler les administrations parallèles dans les zones sous occupation. Cet échange m'a permis de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de la MONUSCO dans le contexte actuel, déclare James Swan. Il se félicite également de l'engagement du président de la République en faveur des efforts diplomatiques et de sa volonté de privilégier une issue non armée à la crise dans l'est du pays. Le chef de la MONUSCO souligne que les avancées diplomatiques doivent désormais produire des effets concrets sur le terrain au bénéfice des populations. Enfin, il réaffirme les priorités de la mission. Renforcer la protection des civils et appuyer les institutions de l'État en RDC. Pour sa part, la MONUSCO indique que cette audience avec le chef de l'État marque les débuts d'une série d'échanges que le nouveau représentant spécial entend poursuivre avec les principales institutions congolaises.
Mais pendant que les discussions se tiennent au sommet, la réalité sur le terrain reste alarmante. Dans l'est de la RDC, la guerre étouffe aussi l'aide humanitaire. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. Les forces armées de la RDC, tout comme les groupes armés des hauts plateaux du Sud Kivu, entravent l'acheminement de l'aide et empêchent des civils de fuir les combats. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'organisation appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se réunit aujourd'hui sur la situation en RDC, à exiger l'accès humanitaire, la protection des civils et à envisager de nouvelles sanctions contre le commandant responsable d'abus. Alain Irung nous éclaire sur cette alerte de Human Rights Watch.
Dans ce communiqué, Human Rights Watch affirme que les civils des hauts plateaux du Sud Kivu sont confrontés à une grave crise humanitaire et vivent dans la crainte d'exactions commises par toutes les parties, a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse principale sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch. L'ONU a qualifié de grave les restrictions humanitaires d'accès au haut plateau du Sud Kivu, une zone englobant des portions des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Les incidents sécuritaires impliquant l'armée congolaise et des groupes armés au Sud Kivu se sont multipliés après le retrait complet de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo en juin 2024, conformément à un accord entre l'ONU et le gouvernement. Les informations sur les exactions en cours sont rares en raison du manque d'accès à la zone et des infrastructures de télécommunications très limitées. Human Rights Watch a reçu des informations crédibles concernant 8 incidents impliquant des frappes de drones au Sud Kivu entre janvier et mars 2026. L'analyse des données du projet ACLED, qui compile et vérifie les rapports de violences politiques, montre une augmentation significative des frappes aériennes et des drones signalés dans les hauts plateaux du Sud Kivu depuis novembre 2025.
À Bounia, survivre demande de l'ingéniosité. Sur le site des déplacés des Kingonze, près de 70% des familles tentent de tenir grâce à des petites activités génératrices de revenus, agriculture, de subsistance, petit commerce ou encore travaux journaliers. Des efforts qui leur permettent de subvenir tant bien que mal aux besoins quotidiens. Mais la précarité reste extrême. Faute de moyens, des milliers d'enfants ne fréquentent toujours pas l'école. Le point sur cette réalité avec Laetitia Viakounou.
Installés sur les sites depuis 2017, ces déplacés ont fui leur village d'origine dans le territoire de Ndjougou à la suite des exactions de groupes armés. Pendant plusieurs années, ils bénéficiaient d'une assistance alimentaire régulière fournie par les organisations humanitaires. Mais depuis près de 3 ans, cette aide est devenue rare, voire irrégulière, en raison de la crise humanitaire mondiale. Pour faire face, environ 70% des déplacés du site des Kigonze développent des stratégies de survie. Certains se lancent dans les petits commerces, notamment la vente de roseaux, des bois de chauffage, d'autres cultivent des petits champs aux alentours ou effectuent des travaux journaliers dans les quartiers voisins en échange d'argent ou de vivres. Georgine Nzusi.
Moi, au quotidien, je vends du charbon. Nous sommes 15 dans notre abri. Lorsqu'un enfant mange juste un morceau de patates douces accompagné d'un peu d'eau, cela suffit pour la journée.
Malgré ces efforts, ces activités restent insuffisantes pour couvrir les besoins essentiels des ménages, notamment le soin de santé et la scolarisation des enfants. Dieudonné Mateso, président du comité de gestion des plaintes.
Lorsqu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Cela oblige les déplacés à se débrouiller. Nous les sensibilisons à travailler et à abandonner l'habitude de quémander.
Bounia, Laetitia Viakounou, Radio Okapi.
Changement des décors maintenant dans les Lualaba. Après une journée de vives tensions, le calme est revenu ce mercredi à Fungurume, mais les traces restent visibles. À l'origine, la mort d'un trésor artisanal tué dans la concession minière de TFM. Selon plusieurs sources, un militaire en poste aurait ouvert le feu sur un trésor entré clandestinement pour voler des minerais. Un drame qui a mis le feu aux poudres. Morts, pillages et affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le lendemain matin, la colère s'est étendue avec des dégâts matériels signalés sur l'avenue Kasolondo. Le point avec vous, Élisée Chikota.
Selon la société civile, les forces de l'ordre sont intervenues pour établir l'ordre face à une foule en colère qui lançait des projectiles. Lors de cette intervention, la police a tiré, provoquant la mort d'une deuxième personne et faisant plusieurs blessés. Parmi les victimes figure un élève grièvement blessé qui devrait être évacué vers Lubumbashi pour une prise en charge médicale appropriée au regard de la gravité de son état. Les autres blessés sont soignés sur place à Dilara, dans la localité de Fungurume, rapporte la société civile. Contacté par Radio Kapi, l'entreprise TFM indique avoir pris connaissance des faits et promet de s'exprimer ultérieurement, le temps de réunir l'ensemble des éléments liés à ces incidents. Il convient de noter que de tels événements sont récurrents dans cette zone minière. Des creusers artisanaux envahissent régulièrement la concession de cette entreprise pour y prendre des minerais. Pour la société civile, le gouvernement devrait octroyer des zones d'exploitation artisanale légales afin de permettre à ces creusers de travailler dans des conditions sécurisées. Selon elle, poussée par la recherche du pain quotidien, ces exploitants artisanaux finissent par s'introduire dans des concessions privées, une situation qui ravive régulièrement les tensions et se solde souvent par des pertes en vies humaines.
Autre urgence, cette fois sanitaire. La partie sud du Sud Kivu fait face à une épidémie de choléra. 5 zones de santé des territoires d'Ouvira et de Fizi sont déjà touchées. Selon le médecin chef de division provinciale de la santé, les personnes déplacées et le militaire figurent parmi les groupes les plus affectés. L'appel est clair, un appui urgent du gouvernement pour lancer une riposte vaccinale. On écoute le docteur Aimé Alengo Doudou, propos recueilli par Jean Kassami.
De la première semaine à la 14e semaine épidémiologique, la province a pu notifier 4598 cas de choléra, 53 décès, avec un taux de létalité de 1,15%. 70% des cas notifiés par la province proviennent du côté sud, territoire d'Ovira et Fizi. La zone de santé d'Ovira, la zone de santé de Ruzizi, la zone de santé de Fizi, la zone de santé de Nundu, la zone de santé de Kimbilolingi. Les déplacés internes et le militaire sont le plus touchés. Les grands soucis que nous avons maintenant, c'est la disponibilité des médicaments pour la prise en charge. Et nous sommes en train de réfléchir, de solliciter l'implication des autorités politiques administratives et l'intervention de la hiérarchie pour que nous puissions réaliser une riposte vaste. Après de créer quand même une immunité du côté sud avec tous ces déplacements des populations, avec des militaires qui sont venus du niveau national pour venir sécuriser nos frontières.
Direction maintenant la Tchopo où la nature impose sa loi, dont les territoires d'Isongi à 125 km de Kisangani. Un paysage de désolation s'installe depuis la mi-mars. La montée spectaculaire des eaux du fleuve Congo et de la rivière Lomami a englouti des villages entiers. Yanjanji, Yaliomna, Yangowa, Yaikela, des localités aujourd'hui sous les eaux, plongeant de milliers de familles dans une crise humanitaire sans précédent. Le récit avec Jacques Moukonkolé.
Selon le Bureau local des affaires humanitaires, le bilan est lourd. Plus de 20 000 familles sont sinistrées. À Isangi Centre, la vie est quasiment à l'arrêt. Toutes les voies d'accès sont coupées, isolant la cité du reste de la province. Sur place, l'inquiétude grandit face à une situation socio-sanitaire jugée dramatique. Témoignage de Joseph Bassaï, chef de division provinciale de l'éducation par intérim.
Il y a d'autres écoles qui sont totalement inondées. Difficile de continuer avec les cours. Avec cette situation, c'est-à-dire traverser plusieurs fois avant d'arriver à l'école, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de l'hygiène avec des latrines, il y a des gens qui défèquent dans l'eau, qui boivent la même eau.
Le cri d'alarme de Joseph Bassaï résonne comme un dernier avertissement. Au-delà des infrastructures scolaires et administratives touchées, c'est le spectre des épidémies et de la famine qui guette désormais la population d'Isangi. Face à l'impuissance des autorités locales, un SOS est officiellement lancé auprès du gouvernement central et des partenaires humanitaires. L'objectif, coordonner des actions d'urgence immédiates pour secourir les milliers de sans-abri avant que le bilan humain ne s'alourdisse de façon irréversible. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
En Mbujimayi, les routes nouvellement asphaltées commencent à se dégrader. Depuis près d'une semaine, l'entretien est à l'arrêt, conséquence directe de la grève des femmes balayeuses chargées de l'assainissement urbain. En cause, 9 mois d'arriérés de primes, aussi bien pour les travaux d'assainissement que pour l'accueil de visiteurs à l'aéroport de Bipemba. Résultat, la saleté regagne progressivement les artères de la ville. Explication avec Esther Ndalafina.
La grogne s'est exprimée publiquement lors d'une cérémonie officielle en présence du vice-gouverneur et du maire de la ville. Une balayeuse, au nom de ses collègues, a sollicité sans succès la parole pour réclamer le paiement immédiat des primes.
Je regrette infiniment. Nous, les femmes, nous souffrons. J'ai des larmes aux yeux. Ça fait près de 6 ans que je balaye les artères. Le maire nous a appelés pour nous encourager. J'ai demandé la parole en levant la main, mais ils ont refusé de me donner la parole. Je réclame mon argent de tous les mois.
Depuis lors, ces travailleuses se regroupent quotidiennement sur le boulevard Mzé Laurent-Désiré Kabila, au siège de leur ONG de tutelle SAF-CELE, pour maintenir la pression, mais aucune solution n'a été trouvée. Conséquence, l'assainissement des routes est à l'arrêt et le sable s'accumule sur les artères principales de la ville. La situation du paiement des primes reste confuse dans les contradictions entre la mairie et les structures impliquées dans l'assainissement. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Un mot d'espoir maintenant sur le front des infrastructures. Le travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji avance de manière significative selon l'agence congolaise de grands travaux. L'axe est désormais praticable sur toute la longueur et 40 km ont déjà été modernisés, soit plus de 17% du taux d'exécution. Les détails dans ce reportage signé André Katende Ngalamoulomé.
Longue de 230 km, la route Kananga-Kalamba-Mbuji constitue un axe stratégique pour les désenclavements du Grand Kasaï. Elle facilite notamment les échanges commerciaux avec l'Angola à travers les ports de Lobito. En terre battue, cette route est praticable sur toute sa longueur depuis 2025. Selon Serge Diboué, chef des missions de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, les travaux de modernisation connaissent une avancée significative. À ce 6 jours, 40 kilomètres ont déjà été modernisés à partir du point de départ situé à Matamba.
On a terminé avec les travaux de praticabilité. En termes de modernisation, nous avons déjà fait 20 kilomètres de béton bituminé, 30 kilomètres de couches de base et 37 kilomètres de couches de fondation. Vous pouvez faire 40 kilomètres sans avoir vu la terre.
Serge Duboué précise par ailleurs qu'il est désormais possible d'effectuer un aller-retour sur les tronçons Kananga-Kalambambouji en une seule journée. Il rassure enfin que toutes les dispositions sont prises pour que les travaux soient achevés d'ici fin 2027, conformément aux engagements pris par les gouvernements centrales. Kananga, André Katendengalamoulume, Radio Okapi.
Ce mardi, la CENI rend de compte. Son président, Denis Kadima, a déposé à l'Assemblée nationale le rapport annuel de l'institution couvrant la période d'avril 2025 à mars 2026. Un exercice de transparence, dit-il, face aux élus de la nation. À l'Assemblée, le geste est salué pour le rapporteur Jacques Joly. Ce dépôt confirme le rôle de contrôle du Parlement sans perdre de vue l'accompagnement des institutions d'appui à la démocratie. Gestion de la CENI, utilisation de fonds publics, état d'avancement du processus électoral, les débats s'annoncent au cœur de la prochaine plénière. Écoutons Jacques Joly dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
La CENI nous a fait part d'un certain nombre de difficultés, mais aussi nous a fait part des préparatifs de prochaines séances électorales, parce que une élection, ce n'est pas un événement, c'est un cycle. Et les cycles, c'est un cercle. Or, apparemment, la CENI a quelques difficultés au niveau de finances. Mais sur le plan de fond, nous avons insisté sur l'intégralité du processus électoral. Vous savez qu'il y a la mise en œuvre de l'ensemble de la chaîne électorale qui n'est pas encore achevée. Il y a eu des élections présidentielles, des élections au niveau national, des élections au niveau provincial. Mais jusqu'à présent, les élections ne sont pas achevées au niveau local. Et nous avons discuté avec la CENI pour savoir quelles sont les contraintes et comment parachever notre cycle électoral pour restaurer l'autorité démocratique de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi insisté sur la situation à l'Est où nous avons demandé à la CENI de prendre des diligences parce que les machines ont été importées au Rwanda et ailleurs et il faut donc veiller à l'intégrité de notre base de données. La CENI nous a donné des assurances là-dessus.
Actualité internationale.
La guerre au Soudan entre dans sa quatrième année. 3 ans de conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires de forces de soutien rapide ont plongé le pays dans ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. Plus de 11 millions de personnes ont été déplacées, de dizaines de milliers ont perdu la vie et la majorité de la population vit désormais dans la pauvreté sur fond de faim généralisée. Ce mercredi 15 avril, une conférence internationale des donateurs se tient à Berlin. L'occasion de l'anniversaire du début du conflit pour tenter de relancer des pourparlers de paix fragilisés et mobiliser des fonds humanitaires. La rencontre réunit gouvernements, agences humanitaires et organisations de la société civile sans la participation de 2 camps belligérants. Sur le terrain, les violences se poursuivent. L'ONU rapporte près de 700 civils tués par des frappes de drones depuis janvier, notamment dans les régions du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Un calme précaire est toutefois observé à Khartoum, reprise par l'armée en 2025, où la reconstruction débute timidement. Marché rouvert, circulation rétablie et reprise des examens de fin d'études après près de 2 ans de fermeture des écoles. Mais pour de nombreux Soudanais, épuisés par 3 années de guerre, l'espoir d'une paix durable reste incertain.
L'invité.
Le nouveau directeur régional de l'UNOPS pour l'Afrique est en visite en République démocratique du Congo. Entré en fonction en 2026, Sandjei Matour séjourne dans le pays depuis le week-end dernier dans le cadre d'une tournée régionale destinée à mieux appréhender les réalités des zones placées sous sa responsabilité. À Kinshasa, il s'imprègne notamment des actions menées par son organisation en appui au développement de la RDC. Il est notre invité aujourd'hui et revient sur les réalisations en cours ainsi que sur les perspectives de l'UNOPS dans le pays. Sandjei Matour est au micro de Dona Madimba.
Sandjei Matour, bonsoir.
Bonsoir.
Votre présence en RDC en tant que directeur régional UNOPS pour l'Afrique est présentée comme celle du renforcement de la coopération entre la RDC et l'organisation que vous dirigez, mais n'est-elle pas au fond, en réalité, une visite de prise de contact avec vous particulièrement et la RDC, vu que c'est votre première visite officielle dans le pays?
En effet, vous avez raison, c'est ma première visite officielle en RDC, depuis que j'ai pris cette nouvelle position. L'UNOPS a été en RDC depuis 1999. Nous sommes l'une des agences des Nations Unies, mais notre spécialité, c'est l'infrastructure, c'est la passation des marchés, c'est la gestion de fonds et la gestion de projets. Donc, nous avons une expertise élaborée dans ce pays et je veux mettre cette expertise à la disposition de nos partenaires et du gouvernement, bien sûr.
Alors, à ce stade de votre visite, vous avez pu échanger déjà avec quelques autorités,
oui.
Mais est-ce que vous pensez avoir touché toutes les autorités que vous souhaitiez toucher et globalement, aux plus hautes autorités, vous souhaiteriez échanger sur quoi, leur dire quoi, attendre quoi d'eux?
Donc, j'ai déjà eu des rencontres avec des ministres et nous avons travaillé avec beaucoup de ministères dans ce pays et je vois que nous pouvons faire plus. Donc, ce que nous avons discuté, c'est un, de mieux nous connaître entre nous et identifier ensemble là où on peut apporter vraiment des appuis concrets. Donc, nos équipes vont se rencontrer à partir de maintenant. Nous avons déjà travaillé ensemble, mais mieux élaborer comment nous travaillerons dans le futur. Et c'est les discussions que nous avons eues. Et il y a beaucoup de potentiel, comme j'ai dit, il y a les corridors, il y a aussi les partenariats que nous avons avec, par exemple, la coopération allemande, où nous travaillons dans l'est du pays. Et nous voulons voir comment on peut s'assurer que les projets que nous allons mettre en place sont vraiment des projets qui apportent des bénéfices concrets aux populations.
Alors, pour être dans le concret, justement, en ce moment, la RDC connaît de besoins accrus sur le plan de la sécurité, les besoins humanitaires et la paix, particulièrement dans sa partie est. Que fait concrètement UNOPS sur ces attentes? Et que fera-t-elle jusqu'à évacuation entière de ses besoins?
Oui, nous avons l'année dernière signé avec la coopération allemande un programme pour l'est de ce pays, KfW, pour l'appui dans le secteur des routes, par exemple, et des infrastructures. Nous avons signé environ 61 millions de dollars. Et c'est un programme de 5 ans. Je vous donne juste un aperçu qui va vraiment appuyer sur les infrastructures qui sont nécessitées dans la région et qui vont aussi servir pour la paix.
Alors, on dit souvent de l'Afrique, et on l'entend aussi pour la RDC, que tous les financements qui peuvent venir de l'extérieur, surtout si elles viennent de la communauté internationale, c'est un financement qui est souvent dilapidé ou un financement qui disparaît, dont on ne voit pas l'utilisation et les réalisations. Vous venez pour collaborer ou réactiver, consolider la collaboration avec la République démocratique du Congo. Comment comptez-vous faire pour que ces craintes ne se réalise jamais dans la collaboration entre la RDC et l'UNOPS?
Bon, c'est une très bonne question que vous avez posée. N'oubliez pas que la RDC est membre des Nations Unies. Donc, pour nous, travailler pour l'État membre est vraiment exécuter avec un maximal, un focus maximal sur la capacité est très importante. Les fonds qui sont donnés pour ça, nous pouvons dire exactement comment ces fonds ont été utilisés. Et nous promouvons l'utilisation des capacités locales au maximum. Comme ça, ce qui est délivré, si je puis dire, est aussi peut être maintenu et appartient aux communautés et au gouvernement.
Directeur régional pour l'Afrique, Sanjay Matour, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Sanjay Matour, directeur régional de l'UNOPS pour l'Afrique, était notre invité du jour. Il a fait le point sur les réalisations et l'engagement de l'UNOPS en RDC au micro de Donna Madimba. C'était la grande édition des 18h sur Radio Capi, présentée par Gisèle Cage, mise en onde Dieudonné Nyangassa et Jean-Claude Nsiala, coordination éditoriale Jude Mister Bilonda. Merci de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité à tout moment sur www.radiocapi.net. Radio Capi, une information crédible et vérifiée. Très belle soirée à tous et à très bientôt sur la même fréquence.